et bienvenue sur Amcamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senagi et pour cette saison 2, je vous propose de vous munir d'une pioche, d'une lampe frontale et de gros souliers parce qu'on va aller explorer des sujets de fond en lien avec l'account management. En parallèle des interviews individuelles, ce n'est donc pas un mais deux invités qui croiseront leur point de vue et leur méthode de travail. Vous êtes parés pour l'exploration? Alors c'est parti! Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième débat de la saison 2 de Amcamgram, format nouvelle saison comme vous l'avez vu avec un format de débat. Après s'être posé la question de faut-il commissionner les Customer Success Managers, on va se poser la question du push versus pull, à savoir à quel point un account manager doit-il être omniprésent auprès de ses clients. Parce que c'est vrai que voilà, il y a certains account managers qui se plaignent que leurs clients ne répondent jamais au téléphone et d'autres account managers qui se plaignent d'avoir trop de travail, de crouler sous les demandes entrantes. Et de l'autre côté du miroir, bah, il y a des clients qui, eux, trouvent que leur account manager est un peu trop sur leur dos, alors qu'il y en a d'autres qui auraient voulu être chouchoutés encore plus H24. Donc voilà, je caricature bien sûr, hein, mais le sujet, il est bien présent, à savoir, est-ce qu'en tant qu'account manager, on doit être vraiment pushy envers ses clients? Et comment faire aussi pour du coup équilibrer le nombre de points de contact qu'on va avoir avec eux et la quantité d'informations échangées. À savoir aussi que la majorité du temps, bah, les clients churn, c'est-à-dire résilient leur contrat à cause d'un manque d'informations. C'est-à-dire qu'ils ont signé un contrat à un instant T, mais par la suite, ils ne parviennent pas vraiment à voir la valeur. Donc, a priori, un manque de communication. Et en fait, on se dit que l'account manager aurait peut-être pu anticiper ce churn en étant plus pushy envers son client, mais il faut y aller avec parcimonie parce que encore une fois le but c'est pas de l'agacer. Et le risque ultime pour l'avoir un peu connu, c'est le ghosting de la part de ses clients, donc je ne vous le souhaite pas. Et justement, pour nous aider à prendre la juste mesure des choses en fonction bien sûr de l'industrie toujours et de la typologie de ses clients, j'ai invité aujourd'hui deux pointures au caractère bien trempé qui gèrent leur portefeuille d'une main de maître avec bien entendu leurs contraintes respectives. Donc, à ma droite, j'ai Pia. Toi, Pia, tu es Customer Success Manager depuis un an et demi chez Partoo, une startup qui aide les points de vente à se digitaliser et à attirer de nouveaux clients grâce au référencement naturel et à la e-réputation. Tes clients sont des enseignes de retail et très demandeurs, on va le voir après, de tes conseils. À ma gauche, Arthur, toi, tu es Key Account Manager depuis un an et demi chez Doctrine, la startup qui facilite l'accès à l'information juridique à l'aide d'un moteur de recherche 2.0. Et tes clients sont des professionnels du droit et on va en reparler bien sûr, mais toi, contrairement à Pia, c'est toujours à toi de faire le premier pas pour dialoguer avec eux. Donc, hâte d'en savoir plus. Présentez-vous.
Bonjour à tous. Alors, donc moi, c'est Pia. J'ai 28 ans. Je travaille depuis un an et demi chez Partoo. Avant, je travaillais dans une petite start-up de 15 personnes dans le tourisme. J'ai intégré Partoo. On aide les enseignes du retail et d'autres secteurs d'activité à booster le référencement local de leur point de vente. J'ai pas trop de passion, mais en revanche, je suis vraiment passionnée par... j'aime beaucoup cuisiner. J'ai récemment fait l'acquisition d'un Thermomix, donc c'est clairement la folie. Et mon repas préféré, c'est les lasagnes. Voilà.
Là, tu nous mets à l'eau à la bouche, là. Arthur, je te laisse te présenter à ton tour.
Yes, c'est moi, donc Arthur. Moi, j'ai 29 ans. En parcours pro, je suis juriste de formation. J'ai travaillé avec Pia, on bossait ensemble dans cette start-up dans le tourisme de 15 personnes. Et on a du coup séparé nos vies professionnelles il y a maintenant un an et demi. Et moi, je suis chez Doctrine, donc du coup, la start-up dans le droit, en effet, qui révolutionne l'aide à la recherche juridique et pas que ça. Passion dans la vie, j'en ai pas mal, dont le sport. J'aime beaucoup le tennis, le foot. Plat préféré, plutôt les burgers, histoire de finalement d'être un peu le stéréotype de ma génération. Voilà.
J'aime bien, on est bien en mode summer body, ça fait du bien.
Tout à fait.
Alors, au cours des prochaines minutes, nous, on va parler de communication, de réactivité versus proactivité, de nurturing pour garder contact avec ses clients, de touch points, d'upsell, bien entendu. Alors, c'est parti. Je commence par ma première question, Arthur. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour un account manager, en fait, d'avoir des contacts régulièrement avec ses clients ?
Pour faire bref, moi, un peu comme tous les account managers, je récupère un client qui vient d'être signé avec finalement comme durée de vie, comme espérance de vie dans la boîte de 1 an, parce que dans 1 an, il peut résilier son contrat. Donc moi, j'ai premièrement un objectif d'usage. Il faut que je l'aide à prendre en main l'outil, même s'il n'est pas compliqué. Après, je vais évidemment m'assurer de la satisfaction quasi quotidiennement, si je peux, dans l'idéal, ce qui n'est pas possible évidemment, mais c'est quand même une obligation. Et après, l'idée, c'est de détecter des upsells et surtout éviter le churn. Donc ça, je le sais uniquement parce que je vais avoir des points de contact le plus régulier possible avec eux.
Ok, donc ça, on a bien compris le fait d'éviter le churn et effectivement le fait d'avoir des abonnements annuels crédibilise aussi ce besoin. Et du coup, puisqu'on parle de touchpoint, Pia, est-ce que tu peux juste nous redire un peu quels sont les grands rendez-vous récurrents, assez obligatoires, assez classiques entre justement un account manager et son client ?
Oui, tout à fait. Il y a un modèle, le modèle du 3-6-9-12, qui consiste à faire des points tous les trimestres avec ses clients. Généralement, le plus important, c'est le point de renouvellement. Mais c'est vrai que si on n'a pas pris contact avec son client pendant toute l'année et qu'on arrive un peu comme une fleur pendant le renouvellement, parfois ça peut être un peu touchy. Mais après, ça dépend des clients. Mais généralement, oui, un point tous les 6 mois, et après le point de renouvellement sont les plus importants, oui.
Alors, je pense que là, tu as mis le doigt sur un sujet qui est important, c'est selon son client. Parce qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, il y a certains clients qui ont besoin qu'on soit très proche d'eux, limite qu'on leur tient la main, et d'autres qui préféraient qu'on leur laisse tranquille parce qu'ils disent, voilà, c'est bon, j'ai payé mon abonnement annuel, j'ai pas besoin d'autre chose. Du coup, en quoi véritablement la typologie de client va avoir une influence sur la fréquence des touchpoints ?
Je vais commencer par répondre parce que c'est là où il y a un vrai sujet de, entre guillemets, de divergence, mais plutôt positive entre Pia et moi. Moi, mes clients, c'est des avocats issus des grands cabinets, donc plus de 50 avocats dans une structure. Donc, c'est déjà quasiment des entreprises du droit. Hein, on n'est pas sur des artisans du droit. Pour autant, la phase de négociation contractuelle pour contractualiser chez nous, elle est entre guillemets un peu longue. Donc, il y a pas mal de touch points avec la compte exec. Donc, ça débat, ça négocie beaucoup. Il y a plein d'allers-retours. Et en fait, nous, notre outil étant simple, la mise en place, elle se fait entre guillemets en un onboarding, une formation terrain, et hop, c'est terminé. Et l'avocat, lui, dans sa logique, ils ont pas trop le temps. Parce que le temps, c'est pour eux de l'argent. C'est une expression qui est évidente, mais qui est très vraie chez un avocat. Il fonctionne avec du temps facturable, des heures facturables, et pour sa structure, du temps qu'on appelle non facturable et du temps perdu. Donc moi, j'interviens là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, je vais lui faire perdre du temps et donc de l'argent. Donc il faut toujours réussir à essayer d'aller chercher ce temps-là, alors que c'est du temps non facturable pour eux, qu'ils ne peuvent pas remettre sur le dos d'une direction juridique, d'un dossier ou autre. Donc en effet, la typologie de mes clients influe énormément par rapport à mon ancien métier dans le tourisme, où on traitait avec des gens qui, finalement, eux, adoraient prendre du temps avec nous. Moi, j'ai fait vraiment ce grand écart et il faut que je sois hyper efficace quand j'ai des touchpoints avec mes clients.
Oui, et c'est vrai que moi, à contrario, je travaille généralement avec les directions marketing ou de communication des enseignes avec lesquelles je travaille. Et en fait, comme on est expert sur l'utilisation de Google My Business, donc c'est principalement notre outil de travail, on va les aider à appréhender cet outil finalement qui est assez opaque. Et c'est vrai qu'on est beaucoup, on est souvent sollicité. Alors, du point de vue opérationnel et aussi du point de vue plus stratégique sur comment est-ce que le projet avance, comment est-ce qu'on peut aller plus loin encore dans l'optimisation des informations qu'on va diffuser sur Google My Business. Et comme on est Google My Business Partner, c'est vrai que on a beaucoup de, on leur donne aussi beaucoup d'informations sur les nouveautés, sur comment Google fait améliorer aussi son outil pour les enseignes. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de contacts. Alors, en effet, on peut aussi séparer les clients. On a des clients qui sont demandeurs, qui nous envoient, c'est eux-mêmes qui nous devancent parfois, les nouveautés Google My Business. Mais on a aussi d'autres clients qui sont un peu plus distanciés et qui ont, comme le projet roule, comme tout va bien, voilà, on n'a pas des contacts tous les mois, on peut avoir des contacts un peu moins réguliers. Ça dépend effectivement de cette typologie de client, mais c'est vrai que comme nous, on est vraiment dans la gestion de projet où on va récupérer en fait finalement le compte, quand le sales a le signé, on a vraiment toute une partie onboarding qui dure. Alors, on essaye de raccourcir cette durée le maximum, donc avec des process très rapides. Mais c'est vrai que voilà, on a une durée d'onboarding qui peut être assez longue. Et donc, finalement, on a beaucoup, beaucoup de points de contact, que ce soit moi pour la partie stratégique et globale du projet et l'équipe aussi support qui peut avoir des contacts réguliers aussi avec les clients.
Et après, c'est vrai qu'il faut faire... Là, j'ai prêché un peu pour ma paroisse, mais faut pas non plus multiplier les touchpoints en permanence, parce que ça peut aussi vouloir dire que l'adhésion se fait pas avec le produit. Un produit qui est très buggé ou la personne a du mal à s'en servir, si y a des touchpoints tous les jours, tous les trois jours avec que des problèmes, ça ne préviendra pas le churn, qui est quand même toujours nous le nerf de la guerre de notre métier. Il faut vraiment aussi faire attention à la multiplication des touchpoints pour pas arriver à quelque chose d'un peu d'absurde où le client va pas pouvoir faire l'outil sans nous. On n'est pas vendu dans le produit. Le principe des startups, c'est d'aller faire un produit scalable avec un coût humain un peu raisonnable. Et donc, si on commence à devoir assister notre client en permanence pour chaque opération, ça devient insoluble et c'est que du churn assuré, alors que le client va nous trouver très sympa, mais pour autant, ne va pas adhérer à l'outil. Donc, il ne faut pas oublier que notre métier, c'est de faciliter l'adhésion à un outil. Donc, il faut parfois une certaine humilité vis-à-vis du produit pour que le produit nous remplace indirectement et qu'on soit là que pour faire des actions avec beaucoup plus d'impact que uniquement du debug ou du support pur, même si c'est hyper important, bien sûr.
Mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on parle tous les jours avec nos clients qu'on envoie 15 000 mails tout le temps que le churn est pas assuré. Et donc, du coup, voilà. Mais c'est vrai que notre métier principal, c'est l'adhésion au produit. Et voilà. Mais dans une logique de gestion de projet, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de points de contact et de touchpoints avec nos clients.
Après, quand on dit touchpoint, je pense que ça peut prendre plusieurs dimensions. Tu vois, il y a le touchpoint de j'appelle mon client, et là, pour l'instant, je vais vraiment le mobiliser en temps humain, comme tu disais, Arthur. Ou ça peut être aussi un touchpoint type je lui envoie une newsletter CRM, et là, il va pouvoir en prendre connaissance lorsque lui aura le temps, en fait. Donc, ça fait quand même un point de contact, mais peut-être plus doux.
Oui, moi je pense que les seuls points de contact, enfin le seul point de contact qui à mon avis a de la valeur réelle, c'est d'aller passer un moment avec son client, que ce soit en physique, par téléphone ou en visio, mais un point un peu plus humain. La newsletter, la nouveauté produit, les nouvelles features, etc. C'est bien, mais on peut pas juger que c'est pas assez pertinent à mon sens. Un client va pas être emballé parce que il a reçu une newsletter par mois de qualité. C'est évident. On reçoit tous des super newsletters, on en traite beaucoup trop par jour. Et à moins d'avoir une qui sort totalement du lot, les seuls touchpoints qui vaillent, à mon sens, c'est d'aller faire un rendez-vous physique chez son client pour aller même quasiment dans la caricature. Je pense que c'est là où on a vraiment plus de valeur.
Oui, on a de la valeur aussi, mais après, avec les newsletters, quand on envoie et quand elles sont vraiment bien ciblées et quand en retour, il y a ton client qui te renvoie un mail en disant « Ah, mais c'est super, comment est-ce qu'on peut le mettre en place ? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ?» Là, c'est un touchpoint qui est hyper intéressant et qui n'est pas lié à un appel, à un rendez-vous, mais qui est lié à une action marketing. Donc, je pense que c'est aussi lié, enfin, il y a différents touchpoints, mais ceux-là sont aussi à prendre en compte.
Oui, mais à minimiser dans l'impact que tu vas avoir avec eux, à mon avis, dans le suivi de ton relationnel, ton quotidien, etc.
Moi, j'avais une petite question, Pia, par rapport à ce que tu disais. Tu parlais de traduire en fin de compte ou du moins faire parler les chiffres, les stats dans Google My Business. Moi, ça m'a appelé en fait une question. Est-ce que tu vas apprendre à ton client à pêcher ou est-ce que tu vas juste lui donner le poisson ? C'est-à-dire, est-ce que tu vas lui apprendre à lui-même déchiffrer ses stats en toute autonomie ou est-ce que tu vas conserver cette dépendance, entre guillemets, du client vis-à-vis de toi pour justement avoir des occasions de lui parler et puis placer de temps à autre une petite nouvelle fonctionnalité par-ci, un petit upsell par-là.
En fait, les statistiques Google My Business, en effet, parfois elles sont pas très claires. Donc, généralement, dans la première année, on les aide vraiment à déchiffrer ces stats, même si c'est pas non plus hyper compliqué. Mais il y a des petites notions qu'il faut avoir, des petites notions SEO entre les recherches, les vues. Parfois, c'est la limite et la frontière est très fine. Maintenant, effectivement, dans partout, on met à disposition ces statistiques auprès de nos clients. Et en fait, dans nos prés, on fait des captures d'écran de l'interface. Donc, en fait, on leur montre les statistiques de l'interface partout. Et donc, du coup, en faisant ça, on leur montre les statistiques, on leur explique comment ça fonctionne. Et après, on leur dit, mais vous avez tout dans partout. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. En plus, vous avez plein de filtres. Vous pouvez vraiment faire des filtrer par établissement, par zone géographique, par période pour vraiment comparer. Et là, du coup, on les éduque plus à aller regarder eux-mêmes et à s'intéresser aux statistiques Google My Business.
Ok, donc on va dire un petit peu des deux. Au début, un tu petit vas peu des deux. Et puis, voilà. Ok, d'accord.
Mais c'est vrai que si tu sors les stats toutes simples de Google My Business, bah, c'est un tableau Excel avec des chiffres. Donc, c'est pas, il faut les traiter après. Nous, on les traite, on les met en forme pour que ce soit facile à lire. Et après, voilà, c'est vrai qu'on fait les deux, en fait.
Bah, ça revient aussi à ce que tu disais, Arthur, dans est-ce que le prix d'un SaaS comprend la présence et le suivi d'un account manager, finalement ?
Oui, c'est ça. Enfin, oui, forcément, le client qui a payé, et d'ailleurs, c'est souvent mis en avant par les AE, c'est ce côté accompagnement, suivi, relation, etc. Mais c'est vrai que moi, dans mon métier aujourd'hui, dans mon quotidien, ce qui est aussi très important, c'est l'upsell. Quelque chose, voilà, que le contrat grossisse au fur et à mesure de l'année, dans le meilleur des cas, ou alors au renouvellement pendant un temps. Donc, en fait, le coût humain, en fait, moi, il faut qu'il soit amorti aussi là-dedans. C'est-à-dire que je peux pas, c'est d'ailleurs assez drôle, mais passer énormément de temps avec mes clients si derrière, il n'y a pas non plus une volonté de mes clients d'aller avancer vers un contrat un petit peu plus développé. Et ça s'entend, tout à fait. C'est comme un dossier où on va passer une heure et si je vais passer 10 heures, il faut forcément que le coût du dossier soit plus élevé. Donc il y a cette logique aussi, nous, de venir amortir le coût humain parce que derrière, le contrat va grossir. Donc, moi, ça ne me dérange pas d'aller passer plus de temps avec mes clients s'ils sont demandeurs, un peu à condition, et ça s'entend tout à fait, que derrière, ils veulent aussi donner un volume au partenariat. Les clients qui veulent juste rester comme ils sont, je ne vais pas non plus moi-même, à titre perso, aller multiplier les points avec eux pour finalement pas grand-chose. Et après, là où c'est plus compliqué dans mon quotidien, c'est que moi, mes clients ne sont pas fans, ne courent pas après ces points de passage avec moi. Donc, il faut aller, taper aux portes, retaper aux portes au cours de l'exécution du contrat.
Et comment tu fais alors pour aller taper aux portes
En fait, ça a l'air très simple parce qu'on se dit, en fait, ouais, on se dit, c'est évident, son métier, finalement, il a tous les bons contacts, c'est hyper facile, il a juste à appeler. Oui, en principe, c'est extrêmement simple. En réalité, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que nous, le contrat, quand il est signé en fait avec tous les niveaux d'interlocuteurs qui ont été mis dans la boucle. Donc, ça va passer de l'avocat collaborateur jusqu'au managing partner, le boss. Et après, forcément, ça redescend un peu dans l'exécution. C'est qu'après, le managing partner ne va pas gérer quotidiennement le contrat. C'est normal, il a d'autres choses à faire. Pour autant, c'est lui qui doit prendre les décisions. Donc, moi, il faut que j'arrive autrement en fait, à recréer un cercle d'adhésion autour de l'outil pour justement développer le contrat. Donc, pour ça, j'ai plein d'astuces très simples qui vont être d'aller créer pratiquement du référent interne. Donc, ça va être de se dire que tiens, le documentaliste ou certains collaborateurs vont vraiment adhérer à l'outil et vont vouloir aussi développer sur d'autres spécialités, sur d'autres domaines du droit qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Et comme ça, on va travailler le produit. Donc, c'est des méthodes pratiquement d'AE. Et derrière, il faut se faire connaître auprès des bons finalement economic buyers, des chefs du cabinet pour réavancer le contrat. Donc, ça, les petites astuces. Et après, c'est évidemment beaucoup d'opiniâtreté, beaucoup de connaissances juridiques aussi pour leur montrer des bonnes fonctionnalités clés, savoir leur parler avec leur langage, etc. etc.
Ouais, donc la segmentation, elle est hyper importante, si je comprends bien. Et toi, Pia, au contraire, est-ce que tu vas essayer de te dire, quel client revient vers moi ? Est-ce que tu vas, répondre, avoir plus de points de contact avec les clients à plus fort potentiel ou pas forcément ?
Forcément, il y a un peu un tri entre guillemets qui se fait, même si effectivement les contrats qui ont un peu moins de valeur en euros, suscitent parfois moins ou plus d'interactions, ça dépend. Mais c'est vrai que les contrats à fort potentiel, que ce soit dans l'ouverture de nouvelles fonctionnalités et donc du coup d'upsell, ou alors un contrat qui a été signé qui est assez important. On essaye de le garder, de le chouchouter. Je pense qu'un bon CS doit faire la part des choses, doit donner autant de points de contact à deux clients différents en fonction aussi du poids en euros, en, en, en valeur de son contrat. Donc voilà, c'est vrai que un contrat, un fort contrat, bah, on va plus faire des points de contact, mais c'est normal, c'est parce que c'est un contrat qui est important aussi. Voilà.
Il faut accepter aussi la frustration, qui n'est pas facile. Moi, je l'ai, entre guillemets, souvent dans mon métier, c'est que je sais que je pourrais apporter beaucoup plus à mes clients sur l'usage, sur la manière de s'en servir, etc., s'ils acceptaient un peu plus de passer du temps avec moi. Il faut insister une fois, deux fois, et si après ils refusent, c'est aussi leur droit le plus absolu d'utiliser un outil sympa qu'à 40%, 50% de sa valeur. Moi, j'adorerais leur montrer 100%, mais il faut aussi comprendre que peut-être que eux, le 50%, ça leur va très bien, ils trouvent ça exceptionnel. On oublie un peu souvent dans notre microcosme que finalement on modernise tout, donc ça n'a jamais été comme on fait. Les avocats n'ont jamais été autant accompagnés que par notre service, avec notre manière de faire, etc. Donc finalement, ils ne sont pas friands non plus de l'accompagnement, c'est parce qu'ils ne sont pas habitués. Donc il faut aussi accepter un temps de mise en place où ça va rentrer un peu plus dans les mœurs et que en 3-4 ans, si tout se passe bien, ils adoreront passer encore plus de temps avec nous. Pour l'instant, il faut faire le job, être hyper efficace sur un temps court. Et ça nous apprend, nous aussi, à aller chercher plus de clients, même si on a aujourd'hui que 50 clients pour moi en portefeuille, ce qui représente pas mal de boulot. Déjà, je peux traiter l'intégralité de mes clients, ce qui est génial. Quand on est qui à compte avec 200, 300, 400 clients en portefeuille, là, il faut se donner le malheur de devoir choisir vraiment des clients. Donc, c'est tout à fait différent.
Complètement, complètement. C'est intéressant ce parallèle que tu fais justement entre... les clients, c'est pas qu'ils n'aiment pas mon suivi, mais c'est qu'ils n'y sont pas habitués. Donc, ça dépend aussi peut-être aussi du niveau de digitalisation des clients. Parce que toi, Pia, finalement, c'est des retailers. Est-ce qu'ils sont très digitalisés? Est-ce qu'ils ont cette culture de la e-réputation, du référencement?
Ça dépend, en effet, ouais. Il y en a qui sont très digitalisés, donc qui sont hyper hyper friands de nouveautés, de tout ça. Et ceux qui le sont moins, qu'on doit un peu éduquer sur les bonnes pratiques à avoir sur Google My Business, sur les autres plateformes aussi, et puis après sur la partie gestion des avis. Du coup, effectivement, c'est vrai qu'il y a une vraie, il y a moins de points de contact, mais il y a une partie vraiment éducation, formation. Et après, il y a toute la partie aussi. Alors, ça dépend des enseignes qui veulent déléguer la main au local aussi. Mais après, il y a une partie comment former en fait les directeurs de magasins directement en local. Et alors là, il y a vraiment la répartition entre ceux qui sont hyper digitaux, qui comprennent tout de suite le projet et qui sont à fond dedans et qui sont hyper impliqués. Qui sont faciles à entraîner dans le projet et à faire devenir finalement champion en fait de la solution, et d'autres qui sont moins digitaux, qui sont ancrés encore dans les pratiques quotidiennes qu'ils ont depuis longtemps, et du coup voilà, il faut petit à petit les faire basculer pour les faire devenir champions. Mais c'est vrai qu'il y a toute une partie formation aussi, mais ça se fait régulièrement et ça se fait bien. Les gens sont de plus en plus digitaux, ils comprennent de plus en plus l'impact de Google. S'ils ont un petit sens business, ils savent ce que c'est. Bon, alors pas dans les détails, mais ils voient très bien ce que c'est. Et, de toute façon, tout le monde fait des recherches sur Google, donc on connaît un peu tout ce système-là. Donc voilà. Mais c'est vrai que oui, il y a la dichotomie entre les clients. Entre les clients qui sont digitaux et ceux qui le sont moins.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, Arthur ? Est-ce que tu devrais mettre en place un système de commissionnement des champions ? Comment ça se passe ?
Ouais, alors, le truc, c'est qu'on a réfléchi un peu à ce modèle de faire ça, mais c'est compliqué parce que, comme nous, c'est les structures qui payent. Venir commissionner un champion, ça serait assez mal vu et assez compliqué à mettre en place, entre guillemets, concrètement. Mais en effet, le fait qu'ils soient très digitalisés, en tout cas, aide bien sûr au touchpoint. Mais pour moi, je pense que même s'ils étaient plus digitalisés, parce que globalement, ils le sont quand même, ils sont réticents, les avocats, à l'être. Mais quand on gratte, ils sont relativement digitalisés. Pour moi, c'est vraiment un problème de temps à accorder à des choses non facturables. C'est-à-dire qu'en fait, à part bien sûr ceux qui adorent un peu cet univers startup, qui ont envie d'être ultra au taquet là-dessus, il y a plutôt une réticence à venir aller perdre du temps. Quand moi je viens faire des formations, quelque chose qui est assez rigolo, c'est que je vais avoir une trentaine, quarantaine d'inscrits sur un slot de formation, et au final je peux avoir 60 personnes parce qu'ils vont tous se donner le mot, ils vont vouloir venir, ou alors je vais me retrouver à 3-4 personnes. C'est très compliqué aussi de venir les déclencher. C'est pour ça que je ne peux pas multiplier ces points de passage et que je dois toujours être en fait dans la manière créative d'aller chercher du contact avec mon client. Je ne peux pas proposer un truc et il va tout de suite y adhérer. Il faut vraiment que j'aille creuser, il faut que je pousse, il faut que je sois même parfois un peu insistant avec eux. Ce qui est logique, hein, et d'ailleurs ça les amuse souvent, et moi je m'excuse d'insister, mais je leur précise que c'est leur typologie, ils aiment bien qu'on insiste pour les avoir, et en effet ils acquiescent souvent, mais c'est vrai que c'est pas simple pour moi, c'est pas uniquement pour moi un sujet de digitalisation, c'est un sujet aussi de fonctionnement, de profession, et peut-être que toutes les profs libres sont comme ça, parce que je sais que j'ai certains copains de chez Doctolib qui eux aussi avaient un peu cette problématique de venir gratter à la porte des médecins en permanence pourtant leur apporter des choses gratuites et du bon service. Mais ce n'est pas leur première réaction.
Ok, ouais, j'aime bien cette philosophie qui dit que voilà, ils aiment bien aussi se faire désirer et que parfois ils sont peut-être plus disponibles qu'ils nous le laissent paraître. Donc,
oui,
ça,
au
c'est
final,
une
on arrive
culture,
toujours
hein,
à les avoir. On arrive toujours à les avoir, mais c'est vrai qu'il faut pousser. Il y a pas mal d'astuces. Il faut aussi montrer que, entre guillemets, ils ont une certaine importance à ce qu'on soit contacté. À trouver voilà, les bons sujets, les bons leviers. Faut aussi sortir de l'aspect financier, ce qui n'est pas toujours facile, parce que quand on appelle avec un objectif clairement établi d'upsell ou de cross-sell, c'est pas facile de montrer qu'on va parler un peu de ça et d'autres choses, alors que pourtant, la seule ambition de l'appel, ça va être de proposer des services additionnels parce qu'ils en ont besoin. Et il faut montrer le besoin, la valeur en permanence, et ça, c'est la force de notre métier, et c'est en ça qu'il est aussi hyper important. Même si Pierre et moi, on ne fait pas du tout la même chose, au final, on a la même impression commune de se dire que notre métier est hyper utile. Et les startups qui aujourd'hui n'ont pas de service CSM, account manager, etc., c'est des taux de churn absolument abyssal. Et toutes les startups, même early stage, quand elles se structurent très vite, elles vont créer un service CS dans la foulée d'un service AE parce que sinon, elles ne gèrent pas du tout les flux, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais limite, toi, Arthur, tu pourrais limite t'inspirer des approches des SDR, quoi, carrément du cold,
ouais,
cold approach, alors que toi,
Pia,
tu pourrais essayer de t'inspirer des techniques peut-être du support où là ils ont plein de tickets entrants et de savoir comment les gérer finalement.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Top. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de notre épisode. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à rajouter, Pia ou Arthur.
Bah, juste synthétiser l'échange sur une partie, c'est vrai que c'est assez amusant parce que Pierre et moi, moi j'ai l'énorme bonheur d'être marié avec Pierre, ce qui est un sujet qui n'a rien à voir avec le podcast, mais qui est quand même intéressant parce qu'on se rend compte en échangeant quotidiennement sur nos best practices, sur tout ça, que finalement, on a absolument pas le même métier, mais qu'il y a beaucoup de points communs et qu'il faut s'inspirer en fait, de toutes ces practices différentes qu'on a dans ce secteur de CSM, de CAM. C'est pour ça que le podcast, c'est une super idée. Et merci de nous proposer cette invitation parce que voilà, il faut vraiment s'inspirer de toutes les pratiques, pas rester fermé sur notre métier, pas penser uniquement à nos objectifs, notre envie, notre carrière, etc. Se focaliser sur les clients, hyper customer centric, c'est hyper important, et venir vraiment prendre les bonnes idées des autres personnes et essayer plein de choses parce que notre métier nous permet de prendre plein de choses et ne pas avoir peur du churn, de le combattre quotidiennement, mais de pas voir ça comme une espèce d'issue qui va arriver. Non, on peut rester 15 ans, 20 ans, 30 ans avec des clients. Et au contraire, si on n'est pas trop mauvais, ça c'est ce qui va se passer.
Oui, donc
ouais,
c'est vraiment priorité au produit en fait. Et nous sommes un plus en fait, si je comprends bien.
Oui, tout à fait. Et moi, je pense que c'est important aussi de s'inspirer des techniques des autres teams et aussi des autres startups qui ont. C'est vrai que. Nos métiers avec Arthur sont vraiment au quotidien en fait sont vraiment différents et on s'inspire l'un et l'autre. Alors peut-être Arthur sur la partie gestion de projet qui avec moi mon quotidien et moi plus sur la partie peut-être upsell avec le quotidien d'Arthur. Et du coup c'est deux dimensions qui sont totalement différentes mais qui nous aident au quotidien et c'est important de pouvoir aller chercher les bons tips chez chacun.
Bon bah écoutez, je suis ravie d'avoir fait d'une pierre deux coups, d'avoir pris un foyer et d'avoir fait deux méthodes. Vous me faites gagner du temps, là, les enfants, c'est trop cool.
Avec plaisir.
C'était le but.
Ah là là. Bon, bah, écoutez, merci encore, en tout cas, pour, encore une fois, ce moment de discussion riche. Je pense qu'on pourrait encore y passer plusieurs heures à débattre, effectivement, à s'enrichir les uns les autres. Donc c'est le but. Et je vous dis à très vite.
Merci beaucoup.
Merci, Damien. À très vite.
Ciao.